vendredi 13 2018. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée et surtout la bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens et que j'espère agréable pour vous puisque la fin de semaine s'annonce moyenne hein, côté météo, mais il faut garder le moral. On est fait fort. Bonjour Mathieu.
Bon vendredi.
Ben vous aussi, bon vendredi 13. Ben, il me semble, oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de vendredi 13.
Et c'est nos chers bénévoles de ce matin qui me l'ont rappelé en me souhaitant un bon vendredi 13.
Vous regardez pas votre calendrier, vous, en vous levant?
Ben j'ai pas croisé de chat noir ni d'échelle, donc j'y ai pas pensé. Donc, mais
même
là, maintenant
pas pour...
je le sais.
Oui, mais... J'imagine qu'en préparant vos éphémérides, vous auriez fait le lien entre vendredi et le 13. Malgré que vous ne vous souciez pas de la journée, vous, c'est la date qui compte.
C'est la date,
pour les éphémérides.
Exactement. Ce n'est pas le vendredi, mais c'est le 13 avril dont je vais vous parler aujourd'hui.
On vous écoute.
Merci. On remonte en 1709. L'intendant Jacques Rodeau légalise l'esclavage au Canada. Et oui. En 1742, à Dublin, l'oratorio Le Messie de Handel, George Friedrich Handel, est chanté pour la première fois. Le droit de vote est accordé aux femmes à Terre-Neuve en 1925. 1939, la France et la Grande-Bretagne proclament une garantie de l'indépendance de la Roumanie et de la Grèce. 1961, par 95 voix contre une, l'Assemblée générale de l'ONU condamne l'apartheid en Afrique du Sud. 1964, pour son jeu dans Lilies of the Field, Sidney Poitier est le premier noir à gagner l'Oscar du premier rôle. En 1981, René Lévesque est reporté au pouvoir. Le PQ obtient 49,2% des suffrages et 80 sièges sur 122 battant les libéraux de Claude Ryan. En 1986, à la Grande Synagogue de Rome, Jean-Paul II est le premier pape à visiter un lieu de culte juif. 13 avril 1993, la Colombie-Britannique protège de la coupe une part des forêts de Clayoquot Sound, dans l'île de Vancouver. Toujours en 1993, les cigarettiers estiment qu'un paquet sur trois au Canada provient de la contrebande. En 1997, 13 avril toujours, Eldrick Tiger Woods, 21 ans, est le plus jeune joueur de golf de l'histoire à gagner le tournoi des maîtres. En 2003, les automobilistes du Québec, à l'exception de ceux de l'île de Montréal, peuvent dorénavant tourner à droite sur un feu rouge. Le président iranien en 2006, Mahmoud Ahmadinejad, affirme que Téhéran ne renoncera pas à son programme d'enrichissement d'uranium et demande au monde de considérer l'Iran comme une puissance nucléaire. En 2008, la Banque mondiale annonce le lancement d'un plan pour combattre la faim et l'envolée des prix alimentaires, à l'origine d'émeutes et de troubles en Haïti, en Égypte et aux Philippines. Et en 2009, 13 avril, la militaire canadienne Karine Blais, 21 ans, est tuée, ainsi que quatre autres soldats, sont blessés lorsque leur véhicule roule sur une bombe artisanale en Afghanistan. Et pour ce qui est des naissances du 13 avril, évidemment, il y en a plusieurs. J'en ai noté deux. Le président américain Thomas Jefferson est né en 1743. Il est décédé en 1826. Et Samuel Beckett, le romancier et dramaturge, qui est né en 1906, un 13 avril. Et pour ce qui est des décès, le poète Jean de La Fontaine est décédé en 13 avril 1695, ainsi que le chanteur country Marcel Martel.
Le père de René Martel.
Eh oui, et j'ai trouvé une chanson que nous écouterons.
Pour vrai?
Ben oui, je me suis dit, hein, faisons les choses en grand, écoutons du Marcel Martel,
père, oui.
Voilà, et qui est décédé un 13 avril en 1999, lui qui était né en 1924. C'est tout.
Merci beaucoup, Mathieu.
Ça fait plaisir.
En une de la presse, l'accès au centre-ville bloqué dès 2020. Les trains de Deux-Montagnes et de Mascouche ne pourront plus emprunter le tunnel sous le Mont-Royal en raison des travaux d'implantation du futur réseau express métropolitain, le REM ou le REM, a appris la presse. La chronique d'Yves Boisvert intitulée « Le cœur d'un homme ». La chronique de Francis Vaille, REM, et maintenant « Le vrai risque commence ». Peut-on apporter ses contenants à l'épicerie? Les efforts d'une Gatinoise pour réduire sa production de déchets frais nés par son supermarché. Alors, selon les informations obtenues par la presse, le tunnel sous le Mont-Royal qui relie le nord de la métropole à la gare centrale sera fermé à la circulation des trains de banlieue à partir du début de 2020 jusqu'à la fin de 2021. Le train de banlieue de Mascouche sera lui aussi directement affecté par les travaux d'implantation du REM. Les scénarios à l'étude prévoient ainsi que les usagers de la ligne de Deux-Montagnes seront forcés de descendre du train à la station du Ruisseau, située sur le boulevard Henri Bourassa dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Une navette par autobus sera mise à leur disposition pour les transports jusqu'à la station Sauvé sur la ligne orange du métro, située à 5 km de la gare du Ruisseau. Ce scénario pourrait avoir une incidence directe sur le temps de déplacement des quelques 7500 usagers de l'heure de pointe du matin en train du train de banlieue de Deux-Montagnes, puisque la station choisie pour leur rabattement est située sur le tronçon le plus saturé de la ligne orange du métro. Quant aux usagers du train de banlieue de Mascouche, qui n'auront plus de service vers le centre-ville, leur station terminale deviendra la gare Hunsic. La fermeture du tunnel sous le Mont-Royal aux lignes Deux-Montagnes et Mascouche se poursuivra durant presque 2 ans, du début de 2020 à la fin de 2021. C'est le REM qui prendra ensuite la relève du train de Deux-Montagnes entre la gare du Ruisseau et la gare centrale au centre-ville de Montréal. Selon les informations obtenues par la presse, les fermetures de week-end de Deux-Montagnes devraient se poursuivre jusqu'au début 2020. La suspension des services de week-end sur la ligne Deux-Montagnes à partir du 27 avril deviendrait aussi définitive. Les travaux d'aménagement du REM sur la rive sud et le nouveau pont Champlain, nécessaires à la mise en service du premier tronçon du REM, auront aussi des répercussions sur les services d'autobus entre Brossard et le centre-ville, dans l'axe du pont Champlain dès l'an prochain. Ces services d'autobus en voie réservée transportent présentement environ 25 000 personnes d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, et ce, à chaque période de pointe. Avec l'intensification des chantiers du REM et la démolition du tunnel Chevrier qui permet aux autobus d'accéder à la voie réservée du pont Champlain, sur l'autoroute 10, à partir du printemps de 2019, les services seront perturbés. Et maintenant, le vrai risque commence. C'est Francis Vaille qui signe la chronique. L'ambiance était à la fête. Tout le gratin s'y trouvait, des PDG, des vice-présidents, des dirigeants politiques se serrant vivement la main, sourire satisfait. Les quelques 200 convives avaient bien raison de célébrer cette première pelletée de terre symbolique. L'immense projet de train électrique a été mis en branle à une vitesse fulgurante compte tenu de sa grande complexité. En moins de 2 ans, on est passé d'une idée sur papier à un projet bien réel de 6,37 milliards, chose qu'on aurait cru impensable. Et il faut bien le dire, s'il n'avait pas été confié à la Caisse de dépôt, s'il avait plutôt été géré par le gouvernement ou par une entreprise privée, on en serait encore à discuter du sort de certaines grenouilles, de l'emplacement des futures stations ou des méchants profits du futur exploitant. Tout ça avec un budget qui excède de seulement 5 % les estimations de départ. Les propos de l'écologiste Stephen Guilbeault que j'ai croisé sur place illustrent bien cet état d'esprit. Je le dis à qui veut l'entendre, la Caisse a été un élève modèle dans ce projet, à l'écoute des citoyens, prête à s'ajuster bien davantage que dans plusieurs autres projets que j'ai connus. Oui, le BAP a publié un avis défavorable, dit-il, mais c'est parce que l'organisme n'avait pas en main toutes les données du projet, contrairement à l'habitude, chose normale, vu le procédé de gestion en évolution du REM. Oui, le projet est imparfait, fait la part belle à la Caisse et donne du travail en Inde. Mais c'est le prix à payer pour qu'il se réalise, me disent d'autres. Difficile de ne pas lever mon drapeau, donc, à l'aboutissement de cette première grande étape, de ne pas être emballé par le lancement du plus important projet à Montréal depuis un demi-siècle, qui créera l'équivalent de 6 800 emplois pendant 5 ans. Cela dit, c'est maintenant que le plus difficile commence. Les consortiums menés par SNC-Lavalin et Alstom ont négocié des contrats précis avec la Caisse et si tout va bien, la facture n'excédera pas 6,37 milliards. Le hic, c'est que dans ce genre de méga-projet, les choses vont rarement comme prévu et les risques de dépassement de coûts sont monnaie courante. Des exemples avec la même firme SNC-Lavalin, le Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, a finalement coûté plus que prévu, comme l'agrandissement de l'hôpital Sainte-Justine est vraisemblablement le pont Champlain. Même si la firme d'ingénierie n'en est pas nécessairement responsable, les dépassements de coûts doivent être épongés. Alors, la Caisse parle de 34 000 emplois durant la construction, mais il s'agit en fait du concept d'emploi année, soit le nombre équivalent d'emplois qui serait créé si le chantier ne durait qu'un an. Comme il s'étalera sur environ 5 ans, le nombre moyen d'ouvriers sera de 6 800, avec des points plus élevés, bien sûr, et la somme de 6,37 milliards inclut la contribution additionnelle d'Hydro-Québec de 43 millions. Un mois jour pour jour après la disparition du petit Ariel Kouakou au terme de 30 longs jours et 30 longues nuits sans indice, le père du garçon de 10 ans a demandé hier que soit créée une escouade policière spéciale exclusivement consacrée à la recherche d'enfants disparus. Au service de police de la ville de Montréal, on n'est toutefois pas emballé par l'idée. Au contraire, nous pensons qu'une telle escouade aurait pris les choses en main plus tôt. Aurait pris des actions plus importantes, a dit Kouadio Frédéric Kouakou en point de presse. Ça prend plus de moyens humains, techniques et financiers, a-t-il ajouté. Peut-être que l'histoire d'Ariel sera le début de quelque chose, réitérant une nouvelle fois que sa famille privilégie la thèse de l'enlèvement. M. Kouakou souhaiterait que davantage de ressources policières soient dégagées pour la recherche de son fils. Porte-parole du SPVM, Yann Lafrenière voit les choses autrement. Il affirme que la question a déjà été plus d'une fois soulevée par le passé, mais que selon lui, la création d'une telle escouade serait essentiellement cosmétique. Le nombre de postes vacants a continué de croître l'an dernier au Canada et c'est au Québec que l'on a observé la hausse la plus marquée à ce chapitre, révèlent des données publiées hier par Statistique Canada. Alors que la main-d'œuvre se fait déjà rare, ce portrait brossé par l'Agence fédérale suggère que les entreprises devront continuer à travailler d'arrache-pied pour combler leurs besoins et attirer des employés. À l'échelle nationale, il y avait 469 795 postes à combler chez les employeurs aux quatre coins du pays à la fin de 2017, ce qui constitue une progression de 23 % par rapport à l'année précédente. Il s'agissait du cinquième trimestre de suite au cours duquel la tendance était à la hausse. 92 510, c'est le nombre de postes vacants au Québec au terme de la dernière année en hausse de 46 % ou 29 185 par rapport à 2016. 13 765. Au Québec, c'est dans le secteur de la fabrication qu'il y avait le plus grand nombre de postes disponibles, avec près de 13 800 à la fin de l'année, ce qui constitue une hausse de 65 % par rapport à la période correspondante en 2016. 19,50 $, il s'agit selon Statistique Canada du taux horaire moyen offert par les employeurs québécois pour les postes à combler. Le portrait varie toutefois d'un secteur à l'autre. Par exemple, en ce qui a trait à celui de la finance et des assurances, le taux horaire moyen proposé est parmi les plus élevés, à 26,05 $. À l'inverse, dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le salaire horaire moyen est de 12,25 $, donc 12,25 $, indiquent les données.
J'ai le goût de toi tous les soirs, même au cœur de l'après-midi. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton sourire. Je te cherche quand il fait noir, car j'ai peur tout seul dans mon lit. J'ai J'ai le goût de toi tous les soirs, et c'est bon aussi l'après-midi. Dans le monde il n'y a que nous, dans mon cœur il n'y a que toi. Tu me parles bien souvent de grand bonheur. L'or ou l'argent ce n'est pas tout, notre amour est plus fort que ça. Ma fortune à moi c'est toi, quand je t'ai là dans mes bras. J'ai le goût de toi tous les soirs, même au cœur de l'après-midi. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton sourire. Je te cherche quand il fait noir, car j'ai peur tout seul dans mon lit. J'ai le goût de toi tous les soirs, et c'est bon aussi l'après-midi. Avec mes amis, je dis ton nom combien souvent. J'ai ta photo là sur mon bureau devant moi. Je la regarde en travaillant, j'ai toujours hâte de te revoir. Je te cherche quand je suis seul, mon amour pour toi est grand. J'ai le goût de toi tous les soirs, même au cœur de l'après-midi. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton sourire. Je te cherche quand il fait noir, car j'ai peur du feu dans mon lit. J'ai le goût de toi tous les soirs, et c'est bon aussi l'après-midi. J'ai le goût de toi tous les soirs, et c'est bon aussi l'après-midi.
Marcel Martel, une chanson enregistrée à Shawinigan, 1980, J'ai le goût de toi.
Marcel Martel, c'est quoi l'affaire?
C'est qu'il est décédé un 13 avril 1999, alors on a pensé en faire jouer.
Lui rendre hommage.
Exact.
Avec cette chanson, avec un son, comment dirais-je?
Qui date de 1980.
Oui, on peut dire ça. Merci. Vous allez vous faire chicaner parce qu'il y a des chansons qui ont été enregistrées dans les années 80 avec un son merveilleux, mais ça dépend toujours des circonstances. Mais quand même, on a rendu notre hommage à Marcel Martel et puis c'était bien mérité parce que ça a été quelqu'un de très populaire au Québec. Merci. À la une du Devoir, la photo de presse de l'année. Une photo aussi spectaculaire que troublante. La scène n'a duré qu'une dizaine de secondes, mais a valu au photographe qui l'a croqué, Ronaldo Schmidt, de remporter le prix de la photo de l'année décerné par le World Press Photo. Le photographe se trouvait à Caracas pour documenter le chaos qui sévit au Venezuela. Et ce manifestant a été couvert de flammes à la suite de l'explosion accidentelle du réservoir d'essence d'une moto subtilisée aux policiers. Les trains du REM seront fabriqués en Inde. Alcool, 15 verres par semaine, c'est encore trop. Le seuil sécuritaire serait plutôt de 7 consommations, selon une étude. The Searcher, qu'est-ce qui faisait chanter Elvis? The Searcher, documentaire de facture exceptionnelle dont la première partie est diffusée ce samedi à HBO. analyse le phénomène Presley comme jamais auparavant. L'histoire de la longue quête d'un homme, c'est Sylvain Cormier qui signe ce texte. Week-end, le retour des oies blanches. Livre jeunesse, pudique Amérique. Zeitgeist, la brèche lumineuse. Et le régime de Bachar al-Assad reprend la Ghouta. Les derniers rebelles ont été chassés de la ville de Douma. On connaît la ritournelle, 2 verres par jour et 10 par semaine maximum pour les femmes et 3 verres par jour et 15 par semaine pour les hommes, le tout accompagné d'une ou deux journées sans boire. Et si c'était, point de suspension, beaucoup trop, mieux vaut consommer environ 7 verres standards canadiens d'alcool ou moins par semaine pour minimiser les risques pour la santé, conclut une étude publiée aujourd'hui dans The Lancet. Cela correspond à 100 grammes d'alcool ou moins par semaine, une limite inférieure aux recommandations actuelles d'Éducalcool au Québec et de bien d'autres autorités dans le monde. Au Canada, un verre correspond à 13,6 grammes d'alcool, ce qui représente un verre de vin à 12 % de 140 ml ou 340 ml de bière à 5 %. Signé par une large coalition de chercheurs dirigée par l'épidémiologiste britannique Angela Wood de Cambridge, l'étude établit qu'une réduction de la consommation d'alcool à ces niveaux ferait gagner en moyenne 2 années de vie à un quarantenaire. Chez les plus grands buveurs, plus de 25 verres par semaine, modérer leur consommation permettrait de gagner 4 à 5 années de vie. L'étude réitère qu'il semble moins risqué d'espacer ses consommations dans la semaine en évitant les soirées très arrosées. Les recommandations actuelles au Québec le disent déjà. Cette suggestion de 7 verres ou moins par semaine serait difficile à promouvoir au Québec, avance Émilie Dansereau-Trahan, chargée de contenu à l'Association pour la santé publique du Québec, ASPQ. Les gens ont déjà de la difficulté à respecter les recommandations actuelles. On part de loin, dit-elle. Un homme sur 4 et une femme sur 7 ont une consommation abusive d'alcool, selon l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Le directeur général d'Éducalcool, Hubert Sassy, rappelle que ce n'est pas son organisme, mais bien le comité consultatif sur la stratégie nationale sur l'alcool qui détermine les lignes directrices à mettre en avant avec la population. Pour arriver à une recommandation de 6 verres par semaine, les scientifiques ont utilisé les données provenant de 83 études concernant près de 600 000 personnes consommant de l'alcool en provenance de 19 pays. Les personnes les moins à risque de mourir prématurément étaient celles s'en tenant à 100 grammes ou moins d'alcool par semaine. La journaliste Marie-Maude Denis de Radio-Canada devra se tourner vers la Cour suprême pour contester l'obligation de révéler ses sources. La Cour d'appel a déterminé jeudi qu'elle n'a pas la compétence d'entendre l'appel d'un jugement qui contraint Mme Denis à témoigner au procès de l'ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau, de Marc-Yvan Côté, de 4 co-accusés. Le 22 mars dernier, la Cour supérieure a ordonné à la journaliste de livrer des renseignements au sujet de 2 de ses reportages. Ce témoignage a été demandé dans le cadre de la requête des accusés pour arrêt des procédures en raison de fuites médiatiques. Ils disent vouloir entendre Marie-Maude Denis afin de déterminer si ces fuites ont été orchestrées par de hauts dirigeants de l'unité permanente anticorruption. La Cour fédérale a refusé jeudi soir la demande de Lucie Francinette Granados de suspendre son renvoi. Cette femme du Guatemala qui vit à Montréal depuis 2009 pourrait être expulsée du Canada dès vendredi matin, ce matin, a rappelé le groupe Solidarité sans frontières dans un communiqué. Ces deux derniers recours sont les ministres fédéraux de l'immigration Amen Hussein ou de la sécurité publique Ralph Goodale qui ont le pouvoir d'intervenir. Ni l'un ni l'autre n'avait répondu aux appels répétés à agir des proches de Mme Granados. Une plainte contre l'Agence des services frontaliers du Canada à la Commission canadienne des droits de la personne a été déposée mercredi. Après avoir vécu sans statut durant 5 ans, cette mère de 3 enfants s'est trahie par ses démarches pour régulariser sa situation. Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a fermé la porte jeudi à la tenue d'une commission d'enquête publique sur les circonstances de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, dans laquelle 47 personnes ont péri le 6 juillet 2013. Il balaie ainsi du revers de la main la motion adoptée à l'unanimité mercredi par l'Assemblée nationale. Tout le travail a déjà été fait. On a tous les faits devant nous. On n'a pas besoin de faire une enquête parce qu'on connaît déjà ce qui s'est passé en fin détail, a-t-il déclaré dans une mêlée de presse. Alors que le gouvernement fédéral promet finalement d'investir pour mieux protéger les bélugas du Saint-Laurent, les plus récentes données sur l'espèce démontrent que les mortalités élevées de ces cétacés se sont poursuivies en 2017. Les données publiées jeudi par le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins font ainsi état d'une autre année noire, puisque 22 carcasses de bélugas ont été retrouvées. Le bilan des mortalités est à la hausse par rapport à la moyenne des dernières années. Qui plus est, 2017 a été l'une des pires années jamais enregistrées en ce qui a trait au nombre de nouveaux-nés ou de très jeunes bélugas retrouvés morts, avec un total de 10 carcasses. Et Francine Pelletier recevait jeudi soir le prix Ayman Solomon pour l'excellence journalistique. Félicitations!
Rien de mieux que ma ville pour te brasser. Fessé dans le mille puis te réveiller. On la condamne, la calomnie, mais qu'on me donne si je la remis. Née de son sens de ma mère. Quotidien, mon éphémère. T'as beau jurer, t'as beau t'en plaindre, dire qu'est fané, t'as tout à craindre. J'en jouis franchement, j'y passe ma vie. De fou en marge, qui fuit l'ennui. À bout de rime, à prendre un coup. Aucune déprime, fière de ma pour vous étreindre, pour vous baiser avant d'éteindre, pour vivre à fond toutes les folies que même les marrons rêvent dans la nuit. Y'a pas d'autre place pour vivre en marge, aucun autre as pour les passages qui foncent à fond sur la grande place, brasse au goût toutes les réacs, tous les réacs. Pour les peureux, y'a aucun doute. Pour vivre heureux, faut suivre la route. Ils se cachent au fond, c'est eux qui ont peur. Rien de mieux ce qu'ils fichent, compiment. Mais les rebelles, prennent pas le chemin. Coupe les ficelles, et des pantins. Guérissent en dogme toute leur méfiance. On est pilote de leur jouvence. Mais les rebelles prennent pas le train-train, prennent les ruelles au petit matin. Brûle la chandelle jusqu'à l'aurore. Regarde le ciel, puis rit du sang. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan
cancers et des panthères, guérissant d'acme toute leur méfiance en épilogue de leur jouvence. Mais les rebelles prennent pas le train-train, prennent les ruelles au petit matin, brûlent la chandelle jusqu'à l'aurore, regarde le ciel puis
Mathieu Leroux et sa chanson « Ma ville ».
À la une du Journal de Montréal de ce vendredi 13, des génies du web arrêtés. Deux Montréalais qui aimaient bien s'afficher sur les réseaux sociaux avec des personnalités comme Piqué Sauben sont accusés de blanchiment d'argent à Washington et risque 25 ans de prison. Firoz Patel, toujours recherché, et son frère Ferran, emprisonné, auraient exploité des services de paiement en ligne prisés par les criminels. Les Inuits veulent déterrer le monstre de la côte nord. Des wagons indiens au pays d'Armand Bombardier. Les chroniques de Mario Dumont et de Claude Villeneuve, celle de Mario Dumont intitulée « Hijab, débat électoral, pardon, inévitable » et celle de Claude Villeneuve, « Le mauvais rôle à Daou ». On parle ici de Jacques Daou, le regretté Jacques Daou. Du sel et du plâtre à la place du haschich. Des importateurs de drogue qui s'attendaient à recevoir des tonnes de haschich ont plutôt reçu du sel et du plâtre grâce aux autorités qui avaient réussi à intercepter les cargaisons avant leur livraison au Québec. La drogue était cachée dans des emballages de soupe et de café, a expliqué un enquêteur de la Gendarmerie royale du Canada au début du procès d'Alain Charron, hier au Palais de justice de Montréal. Charron, 69 ans, est accusé d'avoir comploté en vue d'importer au Canada de vastes quantités de résine de cannabis en 2010. Selon la preuve que compte présenter la Couronne fédérale, Charron faisait partie d'un groupe qui a fait venir au Canada trois conteneurs bourrés de drogue. Des victimes veulent déterrer le monstre de la côte nord. Les Inuits tentent de retirer du cimetière la dépouille de celui qui les a agressés pendant 39 ans. Des victimes du père Oblat, Alexis Jouvenot, veulent déterrer les ossements de celui qui leur a fait vivre un véritable enfer pendant 39 ans, car ils considèrent qu'il n'a pas sa place dans leur cimetière. Il y a près de trois semaines, le journal a révélé des témoignages accablants de victimes de Jouvenot qui ont subi ces agressions sexuelles et physiques. Celui-ci a œuvré 39 ans auprès de cette communauté, soit de 1953 jusqu'à son décès en 1992. Il a également organisé une déportation avec le gouvernement fédéral ainsi que des mariages forcés. Pierrette Mestenapeo s'est fait agresser sexuellement au confessionnal par le prêtre. Elle habite en face du cimetière. Chaque fois qu'elle coud, elle a comme paysage la croix sous laquelle repose son agresseur. « Je le vois tous les jours et mon esprit revit toujours ça », avait raconté Mme Mestenapeo. L'École nationale de police avait déjà testé des hijabs. Le journal publiait hier le portrait d'une jeune femme de 17 ans qui étudie au Collège Hanssik et rêve de devenir policière tout en conservant son hijab. La nouvelle a fait vivement réagir les politiciens à l'Assemblée nationale hier. Sondos Lamrari étant la première au Québec à incarner le débat sur le port de signes religieux chez les policiers, l'École nationale de police du Québec, ENPQ, n'a pas de règlement qui interdit le hijab ou le turban, mais le code vestimentaire à respecter n'en inclut pas, créant ainsi une zone grise. Tous les futurs policiers de corps municipaux doivent pourtant passer par cet établissement situé à Nicolette. Le NPQ, donc l'École nationale de police du Québec, avait donc déjà amorcé une réflexion sur le sujet, a appris le Journal de Montréal hier. Mais le fait qu'une aspirante policière risque de frapper à leur porte dans quelques années leur donne une meilleure idée de l'échéancier avisé, explique Pierre Saint-Antoine, directeur des communications de l'école. Ça nous donne une date de début et de fin, explique-t-il. Il y a un peu plus d'un an, l'école avait commencé à tester la sécurité de hijab sportif de façon préliminaire au cas où cela arriverait un jour. L'école est arrivée à la conclusion que le hijab devait être attaché au moyen d'aimant au niveau du cou pour éviter tout étranglement. L'école doit toutefois poursuivre son analyse avant de se prononcer sur ce qu'elle accepterait ou non comme accommodement raisonnable ou comme ajout à son uniforme. La jurisprudence doit être étudiée et le ministère de la Sécurité publique consulté, précise M. Saint-Antoine. Premier périple à l'étranger de Trudeau depuis l'échec indien. Le premier ministre se rendra au Pérou, en France ainsi qu'en Grande-Bretagne. Critiqué à la fin février pour son périple indien de 8 jours où il avait peu de rencontres officielles mais beaucoup de séances de photos en famille, le premier ministre du Canada a cette fois-ci un programme assez chargé devant lui. M. Trudeau, qui ne voyagera pas avec sa femme et ses enfants, est d'abord attendu à Lima, capitale péruvienne, pour le 8e sommet des Amériques. En marge du sommet auquel participeront une trentaine de leaders, Justin Trudeau rencontrera demain le président du Mexique, Enrique Peña Nieto. Au terme du sommet des Amériques, la délégation canadienne mettra le cap sur la France après un bref retour au pays pour une réunion sur le pipeline, le pipeline Trans Mountain. Justin Trudeau sera reçu à l'Élysée où il discutera notamment d'environnement avec le président Emmanuel Macron. D'ailleurs, il deviendra le premier dirigeant canadien à s'exprimer devant l'Assemblée nationale française. La mission diplomatique se terminera à Londres, au Royaume-Uni, où Justin Trudeau s'entretiendra avec la reine et discutera de la transition post-Brexit avec son homologue britannique Theresa May. Le premier ministre canadien participera finalement au sommet du Commonwealth où sont attendus les dirigeants de 53 pays. L'attitude de Trump serait « mafieuse », entre guillemets le mot « mafieuse ». L'ex-patron du FBI traite le président de menteur invétéré dans un livre qui paraîtra sous peu. Les mémoires de James Comey, intitulé « A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership », retracent ses 20 ans de carrière comme procureur à New York, puis ministre adjoint de la Justice dans le gouvernement de George W. Bush et chef du FBI entre 2013 et 2017. À la Maison-Blanche, comme chez les responsables républicains, le livre a fait naître des craintes sur les dégâts qu'il pourrait infliger à une présidence Trump. Le Parti républicain a d'ores et déjà mis en ligne un site intitulé « Lying Comey »,« Comey le menteur », où défilent des citations de personnalités politiques désobligeantes pour l'ex-patron du FBI. Le livre, qui sort le 17 avril, s'est hissé en tête du classement des préventes d'Amazon, grandement aidé par les messages vengeurs sur Twitter de Donald Trump qui l'avait limogé en mai 2017. Les écoles de la Commission scolaire de Montréal seront fermées le 1er mai prochain après que des enseignants aient voté pour une journée de grève. 77 % des professeurs se sont prononcés en faveur d'une journée de débrayage lors du vote tenu hier soir, par l'Alliance des professeurs de Montréal. Il s'agit toutefois d'une grève illégale puisque les professeurs qui travaillent principalement à la commission scolaire, à la CSDM, n'ont pas le droit de se prononcer sur un vote de grève pour négocier leur convention collective locale. Ils réclament de meilleures conditions de travail et de meilleures relations avec leur employeur. Environ 60 000 élèves du primaire et du secondaire se retrouveront en congé forcé. L'Alliance des professeurs réagira aux résultats du vote aujourd'hui. Il n'a pas été possible de connaître le taux de participation. L'Algérie a observé hier un deuil national au lendemain de la pire catastrophe aérienne de son histoire, la chute, pour des raisons encore inconnues, d'un avion militaire qui a fait 257 morts, dont certains ont pu être identifiés. L'appareil qui venait de décoller s'est embrasé en touchant le sol. Il a fallu environ 2 heures pour éteindre l'incendie et de très nombreux corps étaient carbonisés, rapportent les médias algériens. Et les oiseaux de nuit qui se couchent tard et ont du mal à émerger du lit le matin ont un risque de mortalité plus élevé que les couche-tôt qui aiment se lever avec le soleil, selon une étude publiée hier. L'étude, qui a porté sur près d'un demi-million d'habitants du Royaume-Uni âgés de 38 ans à 73 ans, montre que les couche-tard ont un risque de décès de toute cause de 10 % plus élevé que les couche-tôt sur la période étudiée de 6 ans et demi. Des études antérieures avaient souligné leur taux plus élevé de maladies cardiovasculaires et de pathologies métaboliques comme le diabète. Mais cette étude est la première à explorer le risque de mortalité, note l'Université de Surrey. C'est un problème de santé publique qui ne veut plus être ignoré, qui ne peut plus être ignoré, dis-je bien, estime Malcolm Van Schans, professeur de chronobiologie à l'Université de Surrey. Les couche-tard ont plus tendance à souffrir de troubles psychologiques, de diabète, de troubles neurologiques, gastro-intestinaux et respiratoires.
Sur le chemin de terre, ils avaient aligné les corps et les vautours faisaient des cercles autour. Dans la cour de l'école, on bastonnait les dissidents pendant que regardaient en rang les étudiants. Dans les maisons pleuraient les pères et mères, les camions verts transportaient les militaires. Les flamants roses volent dans le ciel encore, et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Les flamants roses s'en vont vers le soleil.
rend l'enfance en sommeil.
Jean Leloup et sa chanson Les Flamants Roses.
Dans le Nouvelliste, on en parle également dans le Journal de Montréal, un cri du cœur pour faire bouger les choses. C'est un véritable cri du cœur qu'a poussé Annie-Kim Charret-Talbot jeudi pour pouvoir terminer ses études au Cégep de Trois-Rivières, où on lui a refusé l'accès à un cours en raison de sa paralysie cérébrale. Un cri du cœur qui a eu des échos jusqu'à l'Assemblée nationale, où la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, est intervenu jeudi matin auprès de l'institution afin de permettre à la jeune femme de poursuivre son parcours scolaire. Annie Kim a complété 8 des 10 cours nécessaires à l'obtention de son AEC en communication. Or, en décembre dernier, l'institution lui a fait comprendre qu'elle ne pourra pas suivre le cours théâtre québécois en raison de son handicap. On m'a dit que je ne correspondais pas aux normes physiques pour atteindre la compétence de ce cours, qu'on ne voulait pas me faire vivre un échec. Mais comme c'est un cours obligatoire dans mon programme, il ne semblait pas y avoir une autre option pour moi, se souvient la jeune femme qui a multiplié les démarches depuis décembre pour se faire entendre. À bout de ressources, c'est vers les médias qu'elle s'est tournée cette semaine. Pourtant, le rêve de la jeune femme est de devenir comédienne. Elle avait d'ailleurs retenu les services d'un professeur de théâtre, d'une professeure en théâtre, pour préparer son entrée au cours théâtre québécois. Consciente de son handicap, Annie Kim dit vouloir montrer que les personnes handicapées ne sont pas des victimes et sont capables de grandes choses comme les autres. « J'aurais au moins aimé qu'on me laisse passer une audition, mais je n'ai même pas pu essayer. Je sais que ça se peut que j'échoue le cours, mais je serais fière de moi parce qu'au moins j'aurais essayé. Je veux qu'on me laisse trouver un moyen de faire mon chemin », explique la jeune femme. En après-midi jeudi, après ses sorties médiatiques et l'intervention de la ministre David, elle a reçu un message de la direction du Cégep de Trois-Rivières afin qu'elle puisse venir les rencontrer pour poursuivre son parcours scolaire. Le contact n'a cependant pu être établi jeudi et la jeune femme attendra avant de se réjouir. « Je ne sais pas ce qu'ils veulent me proposer. Je vais aller les rencontrer et voir ce qu'ils ont à me dire. C'est quand même très ironique qu'après 4 mois de démarche, ils me reviennent le jour où je sors dans les médias. J'espère qu'ils le font vraiment pour les bonnes raisons. » Et non pour sauver leur image, indique Annie Kim. La direction du Cégep a refusé jeudi les demandes d'entrevue. Dans un communiqué, le Cégep a fait savoir qu'il ne pouvait commenter un cas particulier sur la place publique, mais assure qu'aucun étudiant n'est refusé en vertu d'une situation de handicap. Nous regrettons cette situation et pouvons vous assurer que cette étudiante sera contactée pour lui permettre de poursuivre son parcours collégial chez nous, ajoute l'établissement qui dit accueillir plus de 360 étudiants ayant des besoins particuliers et mettre en place des centaines de mesures d'accommodement adaptées aux besoins de ces étudiants. Impossible cependant de savoir si elle pourra bel et bien suivre ce cours obligatoire ou si une autre avenue lui sera proposée. À l'Association de la paralysie cérébrale Mauricie et Centre du Québec, la directrice de l'organisme a été surprise et déçue d'apprendre que la jeune Annie Kim avait eu besoin de se battre pour pouvoir avoir accès à son cours. Louise Vallière connaît d'ailleurs très bien la jeune femme qui s'implique au sein de l'organisme à l'occasion. Sa capacité de réussir lui appartient. À ce que je sache, il y a des personnes non handicapées qui n'ont pas tous les prérequis pour réussir leur cours et on ne les empêche pas dès le départ d'y assister, constate Mme Vallière.
Thank you.
Recueillement, souvenirs et solidarité, c'est la chronique de Denis Graton dans Le Droit d'aujourd'hui. L'école secondaire catholique Garneau à Orléans avait des allures du centre Canadian Tire hier, alors que plus de la moitié des quelques 1200 étudiants portaient un chandail de hockey. Mais contrairement à un match de notre équipe favorite, l'ambiance n'était pas à la fête à Garneau, jeudi, mais bien au recueillement, aux souvenirs et à la solidarité. Plus de 600 élèves ont revêtu les couleurs d'une équipe de hockey pour rendre hommage aux 16 victimes de la tragédie routière survenue vendredi en Saskatchewan, ainsi que pour poser un geste de solidarité envers la famille de Jonathan Pitre, l'enfant papillon de Russell, décédé le 5 avril dernier, après avoir lutté toute sa vie contre cette rare maladie qu'est l'épidermolyse bulleuse. En fait, pratiquement tous les établissements scolaires d'Ottawa, de Gatineau et de partout ailleurs au Canada ont participé jeudi au Jersey Day, une journée spéciale organisée par un groupe de mères de la Colombie-Britannique dont les enfants pratiquent le hockey. L'idée de cette journée a été lancée sur les réseaux sociaux lundi et d'innombrables institutions et compagnies canadiennes ont décidé de prendre part à ce mouvement de solidarité sans précédent en mémoire des 16 victimes de Humboldt en Saskatchewan. À l'école secondaire Garneau, on n'a pas hésité un seul instant avant d'embarquer dans cette campagne d'espoir et d'amitié. Le repère de la gastro dévoilé, c'est dans le soleil, Jean-François Clich, ça ne diminuera pas les débits de fluide corporel, ça ne changera pas de lit l'enfant en pleine nuit. Pas plus que ça ne lavera les draps, mais une équipe de chercheurs américains vient quand même de faire une belle percée au sujet d'un des ennemis les plus cruels des parents qui ont de jeunes enfants, la gastro. C'est un microbe nommé norovirus qui cause la plupart des cas de gastro-entérite dans le monde, ce qui, disons-le, fait un sacré paquet. Mais malgré sa grande abondance, on ignorait quel type de cellules il infecte. On savait bien sûr que ces cellules étaient quelque part dans l'intestin, mais il y a beaucoup de cellules différentes là-dedans. Or, une équipe dirigée par Herbert W. Virgin de l'Université Washington avait fait une drôle de trouvaille à ce propos récemment. Elles avaient montré que les norovirus s'accrochent à un récepteur particulier présent sur l'extérieur de certaines cellules, mais pas vraiment celles de l'intestin. Il s'agissait plutôt de récepteurs associés à des cellules immunitaires qui sont présentes mais rares sur la paroi intestinale. Dans une série d'expériences décrites dans le dernier numéro de la revue Science, l'équipe de M. Virgin a montré que ce sont bel et bien des cellules immunitaires que le norovirus attaque d'un type nommé cellule TUFT ou TUFT, T-U-F-T. Celles-ci n'aident pas à la digestion, mais elles ont des espèces de micro-tentacules qu'elles laissent traîner dans l'intestin et qui servent à détecter les vers pathogènes. Notons que les cellules TUFT ou TOFT, qui ont reçu beaucoup d'attention de la communauté scientifique depuis quelques années, remplissent également d'autres fonctions dans l'intestin, comme de réguler la prolifération des autres cellules de la paroi intestinale. C'est vrai que le mécanisme d'infection du norovirus n'est pas encore clair, et ce nouveau papier-là vient apporter des éclaircissements, commente la chercheuse de l'Université Laval, Julie Jean, qui n'était pas impliquée dans l'étude, mais qui a travaillé sur sa transmission par les aliments. Derek Lefebvre-Simard, alias DLS, n'oubliera jamais le jour où sa grande amie Félicia Tremblay-Bordua a perdu la vie dans un accident de voiture à Jonquière. C'était le 23 janvier 2015, elle avait 19 ans. Depuis ce temps, le rappeur souhaitait rendre hommage à la disparue, mais n'était pas prêt à coucher ses sentiments sur papier. Il y a quelques mois, il a pris la plume de façon instinctive. La pièce « We Miss You » a coulé de source et lui a servi de déversoir. Alors, c'est une pièce qui est maintenant disponible. Et c'est Mélissa Gagnon dans Le Quotidien qui nous parle de cette histoire. Triste, mais en même temps, avec un petit peu de bombe sur les cœurs pour tous ceux et celles qui ont perdu cette Félicia. Merci d'écouter Le Quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous, les actualités culturelles et aussi le segment sujet libre avec une chanson succès.
Thank you. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur.
J'ai cherché de Amir.
Actualité culturelle, vous le savez certainement, c'est le Salon du livre du côté de Québec. Pas moins de 16 auteurs et illustrateurs venus du Québec et d'aussi loin que du Japon pour le Festival Québec BD. Alors ici, on parle de notre événement, mais ça se passe aussi à Québec. S'installent pour la matinée de dimanche au Musée national des beaux-arts du Québec. Leur défi, s'inspirer des collections d'art québécois pour pondre par le dessin une autre exposition sous forme de relecture de notre patrimoine, qui sera, elle, exposée du 17 avril au 8 mai. On achète son billet d'entrée et hop, on fouille les salles à la recherche des artistes à l'œuvre. Dimanche, de 10h30 à midi et de 13h30 à 15h au 179 Grande Allée Ouest à Québec. Alors, comme l'hiver sera de retour en fin de semaine, paraît-il, en parallèle des représentations de sa nouvelle création, la troupe du Patin libre reçoit à demeure pour les 10 prochains jours à son quartier général de l'Aréna Saint-Louis, dans le Myland à Montréal. Cette célébration de la glisse collective permettra de profiter d'ateliers d'initiation au patin, de jouir librement de la glace ou de s'adonner à un éveil chorégraphique matinal la fin de semaine. On peut louer des patins sur place, 5 $, et une buvette sera même en activité pour les petites soifs et les grands creux. Apportez des sous, des cents tous les jours jusqu'au 22 avril au 5633 rue Saint-Dominique. Bono visite le MAC de passage en ville dans le cadre des répétitions de la prochaine tournée mondiale de U2 qui se tiendra à la Place Belle de Laval pour une dizaine de jours encore. Bono a effectué une courte visite au Musée d'art contemporain de Montréal hier matin. Alors, une photo vraiment évocatrice. Bono qui s'est agenouillé devant John Zipitelli, directeur général et conservateur en chef du MAC, et en mortaise l'équipe du musée en compagnie du chanteur. Il s'est agenouillé et on voit le grand Leonard Cohen, une belle photo. Leonard Cohen est habillé tout en noir. J'ai reçu un appel hier soir, mercredi, d'une connaissance qui me disait que Bono, qui était un grand ami de Leonard Cohen, aimerait qu'on lui permette de visiter l'exposition avant l'ouverture des portes chanceux, qui a lieu à 10 heures. Il est donc venu à 9 heures, a indiqué John Zipitelli, directeur général du MAC, en entrevue. Entouré de ses gardes du corps et de quelques membres de son équipe, le célèbre chanteur a ainsi pu parcourir les différentes salles de l'exposition en toute tranquillité. Il a également pu profiter des explications de ses commissaires, puisque M. Zipitelli et son confrère Victor Schiffman ont tous deux pris part à la visite. Il a été extrêmement sympathique. Ce n'est pas quelqu'un d'arrogant. Il posait des questions. Ça a été une super belle expérience de l'écouter, puisqu'il avait des commentaires intéressants. C'est quelqu'un d'assez cultivé aussi. Selon M. Zipitelli, leur célèbre invité a été ravi par sa visite au Musée d'art contemporain, et ce, malgré le fait que le temps lui faisait défaut pour pouvoir admirer pleinement chacune des œuvres présentées. Il était très ému de voir son ami dans de multiples manifestations artistiques, a raconté le directeur du musée qui s'est dit heureux d'avoir pu accueillir l'artiste à quelques heures de la fin de l'exposition. C'est une belle façon de conclure cette aventure. Outre Bono, on compte également Nana Mouskouri parmi les visiteurs célèbres qui ont franchi les portes du MAC pour visiter l'exposition qui a attiré 280 000 personnes depuis novembre. Pas de Québécois au Festival de Cannes. Aucun film québécois n'a été retenu en sélection officielle de l'événement. Pour une seconde année consécutive, le Québec brillera par son absence dans la sélection officielle du prochain Festival de Cannes, donc pas de Xavier Dolan ni de Denis Arcand notamment. Les vendredis à 14h et à 17h30, on peut visiter la Maison du développement durable située au 50 rue Sainte-Catherine-Ouest. Les visites sont données par des guides animateurs et portent sur la construction de la maison elle-même, le premier bâtiment commercial certifié LED. Ça s'adresse à nous, le grand public. On s'inscrit sur le site d'Équiterre, visite au pluriel .équiterre.org. Martine Sinclair, Marie-Michelle Desrosiers, Luce Dufault et Marie-Hélène Thibert présentent le spectacle « Entre vous et nous » samedi, demain, à Châteauguay à 20h et dimanche à Brossard à 20h. Ces quatre artistes exceptionnels nous proposent leur grand succès en chœur, en trio, en solo, en duo et en quatuor. Tous les mardis et samedis à 10h30, vous pouvez amener vos enfants à la grande bibliothèque pour entendre des contes. Dans les bibliothèques de la ville, on peut aussi profiter de ce plaisir. Demain, on entendra une histoire à la bibliothèque Jean Corbeil à 10h et à la bibliothèque Le Prévost à 10h30. Dimanche, 10h30, ce sera en espagnol à la bibliothèque Le Prévost, tandis qu'à la bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, à 10h30, les enfants auront droit à une heure du conte en pyjama. Consultez le site pour savoir ce qui se passe dans votre quartier et pour réserver votre place. Banque, banq.qc.ca, calendrier.bibliomontréal.com. Les Sept Doigts préparent une percée en Chine alors que le Cirque du Soleil prépare ces jours-ci son premier spectacle permanent en Chine. La troupe montréalaise Les Sept Doigts s'apprête, elle aussi, à faire une entrée en force dans ce marché de 1,4 milliard d'habitants grâce à un protocole d'entente signé cette semaine à Pékin. Les Sept Doigts ont conclu un accord avec la China Performing Arts Agency, un organisme du ministère de la Culture qui prévoit la coproduction d'un tout nouveau spectacle et la création d'un autre qui pourrait s'installer en résidence en Chine. L'entente prévoit aussi de faire tourner des spectacles existants de la troupe de cirque dans les théâtres de la CPAA. Suzanne Clément a tourné plusieurs films en France qui parfois ne se sont jamais rendus jusqu'à nos rives. Bonne nouvelle, Le rire de ma mère, où elle tient le rôle principal, sortira au Québec le 17 août. Dans ce premier long-métrage réalisé par Colombe Savignac et Pascal Ralit, l'actrice québécoise offre une performance remarquable dans le rôle d'une artiste peintre un peu excentrique, divorcée et mère d'un garçon timide. Aux côtés de cette femme flamboyante, ce dernier devra apprendre à se construire à la suite d'une nouvelle bouleversante. Sorti en France en tout début d'année, Le rire de ma mère sera distribué chez nous par CAF Film Amérique. Le suspense est à son paroxysme. Les longs-métrages de Père en flic 2, Goon 2, Innocent et Le trip à 3 sont les finalistes du prix du meilleur pire film de l'année du 12e gala des prix Aurore qu'animeront Jean-René Dufort et Chantal Lamarre le 26 avril dans le cadre de l'émission Infoman. Le gagnant aura le déshonneur de succéder à Nitro Roche, lauréat l'an dernier. Si les autres catégories demeurent, les organisateurs claironnent un changement important. Le prix Liquid Paper, rôle qu'un interprète aurait intérêt à rayer de son CV, ne sera plus genré. De fait, Marc-André Grondin pour Goon 2, Louis-José Houd pour De Père en flic 2, Martin Matt, Le trip à 3, Mariana Mazza pour Bon cop, Bad cop 2, Sophie Nélis et Au pire, on se mariera, et toute la distribution du film Innocent se battront pour ce précieux rond-poil. Parce que le rond-poil, c'est le prix qu'obtiennent les gagnants qui vont, en général, ils ne vont pas chercher leur prix. Et vendredi dernier, on apprenait la mort de Jacques Higelin. Et il y a une photo dans la section Planète Art de la presse. Des centaines de personnes ont rendu un dernier hommage au chanteur français Jacques Higelin lors d'une cérémonie au cimetière du Père-Lachaise à Paris, où son corps a été enterré. On voit un album d'Higelin avec une rose rouge. C'est quelqu'un qui tient cet album accompagné d'une rose.
A des allures de gouttes imbibées de froidure, ne mois par année dans la gelure, et l'on entend souvent, l'hiver est long. de fret qui chez nous s'éternise, nous fouette et puis nous tyrannise. Pays de voitures qui s'enlisent et l'on entend souvent, stick d'hiver est long. Saint-Éleuthère à Mont-Laurier, d'Abre Saint-Pierre à Châteauguay. La neige qui dépasse ses limites pénètre jusque sous les barniques, les sacs. Les débarques souvent comiques, et l'on entend encore,
et l'on entend encore,
tic d'hiver est long. L'automne dure à peine une demi-heure, le rouge que les érables effleurent fait place au blanc pâle qui écoeure, et l'on entend encore,
et l'on entend encore,
stick d'hiver est long. Tomber flocons, geler les pieds, de Cabanon jusqu'à Dolbo, de près d'en haut jusqu'à Rigaud. La gadoue, la fardoche, la grippe, la guédille qui s'accroche, la fièvre, les frissons, on est tout croche, et l'on entend tout flou,
et l'on entend toujours,
tic d'hiver est long. Chantons en cœur, mon beau sapin,
mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure.
Une chanson pour ma voisine que j'ai croisée ce matin qui me disait maudit que l'hiver est long. C'était Jean Lapointe qui nous chantait Stick que l'hiver est long.
Alors pour votre voisine et tous ceux et celles qui trouvent que l'hiver est long, parlons donc d'espoir. Avec cette lecture, Week-end, le Québec est aux oiseaux. Le retour des oies des neiges offre un étonnant spectacle de la nature à Baie-du-Fèvre. C'est Hélène Clément qui signe le texte dans Le Devoir d'aujourd'hui. Le mois d'avril est marqué par l'arrivée de milliers d'oies des neiges en route vers l'Arctique de l'Est. Elles font halte, entre autres, dans les champs de Baie-du-Fèvre pour y faire le plein d'énergie. Le moment est opportun pour venir les observer, leur tirer le portrait, visiter le centre d'interprétation et bavarder avec les gens de ce coin de pays, qui est aussi le point de départ de la route des navigateurs. 4 avril, il est midi lorsque nous arrivons dans le village. Comme l'avait prévu la météo, pluie et vent forcissant au fil de la journée. Peu d'oies blanches en vue dans les champs inondés de Baie-du-Fèvre. C'est que la jolie sauvagine n'aime pas les tempêtes, mais elle n'est pas loin. Sûrement en sécurité dans un champ agricole à quelques kilomètres de là, se gaver de vieilles graines de maïs, reliquat de la dernière semence. Elles sont arrivées le 31 mars, plus de 30 000 oies, précise Nathalie Grandmont, responsable du centre d'interprétation de Baie-du-Fèvre, dont la date d'ouverture coïncide avec l'arrivée des premiers troupeaux d'oies des neiges. En fin de journée, le 2 avril, on en comptait quelques 175 000 dans les champs en bordure de la route Janel. Puis, les 4 et 5 avril, à cause du froid et du vent, elles n'étaient plus que 40 000. Et de nouveau, la fin de semaine dernière, elles étaient quelques 175 000. Si la tendance se maintient, les rassemblements d'oies les plus considérables ayant été observés à la mi-avril, et que la météo n'entre pas en folie, ce week-end pourrait accueillir ses plus importantes colonies en provenance de la côte est des États-Unis. Alors malheureusement, oui, la météo va entrer en folie selon ce qu'Environnement Canada nous annonce, de la pluie, de la neige et même de la pluie verglaçante, du verglas pour dimanche, surtout le verglas. Bon, aparté fait, je continue. Criaillement et cacardement. D'abord, on les entend. Un cri qui s'apparente à une sorte de cow-coo ou de cow-lick. Puis, on les voit voler en enfilade dans le ciel, soit en formation aérienne en V, mais pas de façon aussi bien structurée que les bernarches du Canada, ou striant le ciel dans tous les sens à la recherche de nourriture ou d'un espace sécuritaire où se poser. Montréal se trouvant sur leur ligne migratoire, on les aperçoit et surtout on entend depuis quelques semaines leur cacardement dans le ciel de la métropole, soulevant l'espoir d'un changement de saison. Combien d'artistes se sont inspirés de cette grande migration? On pense à Jean-Paul Riopel, qui adorait peindre l'oie blanche et le hibou. Parlons de hibou. Si nous n'avons pas eu le plaisir d'assister le 4 avril dernier au joli chassé-croisé des oies qui rentrent des champs en fin de journée, une aventure nature ne venant pas avec une garantie, en revanche, nous avons vu un harfang des neiges posé là, au beau milieu du dortoir glacé de l'Oye, O-Y-E, Loye ou Loye? Je pense que c'est une autre façon d'écrire pour indiquer l'oie, en attente d'une proie à se mettre sous le bec. Les oies blanches adorent s'installer là où se camoufle le harfang des neiges, car il fait peur à l'un de ses prédateurs naturels, le renard, explique Nathalie Grandmont. Pour la bruyante sauvagine qui vient de parcourir 1000 kilomètres, Baie du Fèvre a tout pour plaire. Une plaine inondée où elle se sent en sécurité et des champs farcis de vieilles semences qui lui fourniront l'énergie pour poursuivre sa migration. Caméras, tranches d'histoire et boîtes à lunch, si à l'automne, les lieux de repos et d'observation pour les oiseaux migrateurs se situent à Montmagny, à l'île aux Grues et à Cap-Saint-Ignace, au printemps, la population d'oies des neiges se concentre dans les aires de pâturage situées sur les terres agricoles en bordure du Saint-Laurent, dont Baie du Fèvre, l'un des fiefs. Alors, merci Mathieu. Ça se prononce vraiment « oie », même si on l'a écrit ici « o-y-e », mais partout ailleurs, on écrit « o-i-e ». Plusieurs sites d'observation attendent les visiteurs curieux le long de la route 132, entre ce village du centre du Québec à 90 minutes de Montréal, 30 de Trois-Rivières, de Drummondville et de Sorel-Tracy, et à quelques minutes au sud de Nicolette. Les meilleurs moments pour observer les oies des neiges, le matin tôt, au moment où elles quittent les plans d'eau le long de la 132, et avant le coucher du soleil quand elles rentrent des champs pour le grand regroupement nocturne. Par beau temps, elles peuvent y revenir en milieu d'après-midi. Par contre, les jours d'intempéries, elles ne rentrent que le soir. Une visite au centre d'interprétation situé au cœur de la réserve de biosphère du lac Saint-Pierre permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les oies et les bernarches s'arrêtent à Baie du Fèvre en période de migration. Au deuxième étage, une mini-exposition raconte l'histoire de ce village de quelques 900 âmes, jadis la seigneurie de la baie de Saint-Antoine, concession du sieur Jacques Lefèvre devenu municipalité de Baie du Fèvre le 30 juillet 1855. Lieu où l'on célèbre l'arrivée des oies au printemps, le mois de l'arbre et des forêts en mai, le Challenge 255 en août, la grande tablée du lac Saint-Pierre en octobre. Et qui possède un théâtre, le Bellecour, construit dans une ancienne salle paroissiale datant de 1950, ainsi qu'un bulletin municipal au joli nom de La Voix de Baie du Fèvre, La Voix V apostrophe O-I-E. À l'entrée du village, on aperçoit un premier panneau bleu indiquant le début de la route des navigateurs, chemin touristique qui épouse le tracé de la 132 le long du fleuve, sur une distance de 470 km, entre Baie du Fèvre et Sainte-Luce. La jolie route ancestrale sillonne le centre du Québec, la Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Bon, tout cela donne faim. Il est possible de se sustenter alentour, soit au restaurant traiteur Madame Claire, qui concocte du lundi au jeudi midi une cuisine maison, ou en se procurant du mercredi au dimanche quelques produits du terroir québécois, à la boutique du centre d'interprétation, confit d'oie, rillettes, mousse de canard, œufs de caille, cornichons et moutarde à la canneberge. ne reste qu'à apporter votre pain et quelques verres pour goûter aux globules de type A, B ou AB, nom qui évoque la profession médicale pour laquelle le copropriétaire du vignoble Le Fief de la Rivière, Jocelyn Hébert, se passionne depuis toujours. Alors, je vous ai lu « Le Québec est aux oiseaux ». C'est dans la section week-end du Devoir d'aujourd'hui, article signé Hélène Clément. Alors, je vais vous lire un communiqué pour terminer. Semaine de l'Action bénévole 2018. Je bénévole, tu bénévole, conjuguons notre bénévolat. La Semaine de l'Action bénévole aura lieu partout au Québec du 15 au 21 avril 2018. Alain Dumas, que je recevais hier au Par Actualité, devient officiellement l'ambassadeur de la Semaine de l'Action bénévole 2018 suite à la réception de la distinction honorifique le 11 avril. Une partie de l'équipe d'Opération Enfant Soleil et du Téléthon était présente pour faire une belle surprise à notre récipiendaire. Le thème de la semaine de l'Action bénévole 2018 est « Je bénévole, tu bénévole, conjuguons notre bénévolat ». À travers ce thème, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec a souhaité mettre de l'avant l'importance de s'unir plus que jamais dans une ère où l'individualisme est prédominant. L'utilisation du verbe « bénévoler » n'est pas intégrée dans le dictionnaire de la langue française, cependant, son utilisation permet de refléter de nouvelles façons de s'impliquer et de lui offrir une image contemporaine dans une société en pleine mutation, a déclaré Fimba Tankoano, directeur général de la FCABQ. Au Québec, c'est plus de 2 millions de personnes qui s'impliquent chaque année, ce qui est une aide substantielle aux organismes dans la réalisation de leur mission. Sans ces bénévoles, la majorité des organismes ne seraient pas en mesure de répondre aux besoins de plus en plus grandissants au sein de la population. L'apport des bénévoles est essentiel et il faudrait encore plus de bénévoles pour continuer les magnifiques œuvres des organismes partout au Québec. Alors, on va les célébrer, ces bénévoles. On en a beaucoup à Canal M et à Vues et Voix. Merci à tous ceux et celles qui font du bénévolat. Et puis... on aura l'occasion de s'en reparler. Là-dessus, je vous souhaite une agréable fin de semaine. Beau temps, mauvais temps. Ici Hélène Denis, je vous retrouve lundi. Un grand merci à Mathieu Tessier, à la mise en onde et au choix musical. Merci à vous. Dans un moment, c'est Au Signal avec Kevin Breton. À bientôt.